Radio Rétro, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Une image, selon Alfred Piton, bah ça peut être une photo, ça peut être un dessin, ça peut être quelque chose d'abstrait. Ça va dépendre de la technique qu'on veut utiliser. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi ce que l'on perçoit. C'est plein d'interprétations. Une image, c'est de l'émotion. Surtout lorsque, avec les tableaux que fait Alfred Piton, lorsque la lumière disparaît, on va vous en parler tout de suite. Une image, c'est un contraste du coup. Ça parle et ça fait réfléchir. Et quand on dit que ça fait réfléchir, Alfred Piton, ça réfléchit d'un côté la lumière, mais ça nous fait réfléchir. Nous, c'est un petit peu l'intention que vous avez avec vos tableaux.
Oui, exactement. Oui. Ça fait réfléchir. Au moment où on voit le tableau de jour, on peut se poser plein de questions sur ce que c'est, ce qu'on veut représenter, pourquoi j'ai utilisé ces images, pourquoi j'ai mis ces symboles dans le tableau. Et c'est seulement quand on va éteindre la lumière que les réponses seront perçues, parce que bien souvent, c'est des personnalités qui ressortent derrière ces images, et ces personnalités sont en rapport avec l'image première.
Ça peut être un rapport en plus qui peut être ultra direct par association d'idées ou peut-être par antonymie, comme le tableau qu'on va décrire maintenant. Je vais me lever pour éteindre la lumière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons vous avez décidé de faire ce jeu entre la lumière et l'obscurité à travers la lumière à travers l'obscurité?
Alors moi j'aime particulièrement surprendre. Et je pense qu'avec cette technique, j'arrive encore à surprendre et à créer de l'émotion. Parce qu'au moment où la lumière s'éteint face à un de mes tableaux, les personnages qui arrivent, les personnages qui ressortent ensuite dans la nuit sont au fond des réponses aux images premières que le tableau donne. Alors maintenant qu'on a éteint, on peut voir sur le tableau qui est ici.
Oui, alors c'est bon, je suis revenu, je suis là.
Ce tableau représente des images de la gamme Mercedes, de la première aux modèles les plus récents. Et alors les différentes Mercedes qui sont représentées là sont de très anciennes. Il faut savoir que Mercedes a été créé en 1902.
Ouais.
Et dans ce tableau, ce qui ne se voit pas du tout de jour, c'est les visages des protagonistes de cette marque de luxe. Et les protagonistes, donc Émile Jelinek, qui en est le fondateur en 1902, on voit apparaître aussi sur ce tableau Daimler, on voit apparaître Benz, qui sont ceux qui produisaient les Mercedes en Allemagne. Et après, on a encore la photo, le portrait en fait, de William Maybach. C'était un ingénieur qui travaillait avec Daimler, mais aussi et surtout, sur ce tableau, on voit apparaître la petite fille qui s'appelle Mercedes, qui est la fille de Émile Jelinek, et c'est elle qui a donné son nom à la marque. Tout ça apparaît en fait sur ce tableau.
Donc en fait, on a un gros morceau d'histoire. Donc là, c'est plutôt un petit clin d'œil à une marque de véhicules qui reste légendaire. Et puis que je pense qu'il y a plus d'un fan. Peut-être même que monsieur le directeur ici, qui aime bien les Mercedes, enfin qui en a une. Et je pense qu'il serait bien fan d'avoir ce tableau-là. Donc les personnes, les possesseurs de Mercedes, qui sont en général des personnes qui apprécient ce véhicule-là, il serait très fun. Mais il est très fan de l'avoir. Mais par contre, l'autre, il me surprend d'autant plus parce que celui-là, il interroge vraiment. Donc quand on a la lumière éteinte, plutôt allumée, on a un fleur, ça peut être ce qu'on appelle une nature morte, oui. C'est un peu ça?
Alors en fait, on a des fleurs, c'est symbolisé. Disons que c'est des fleurs qui sont faites avec une technique que je suis en train d'expérimenter, de peinture. C'est des fleurs qui sont plus ou moins abstraites. On ne pourrait pas dire si c'est une orchidée ou si c'est une rose.
Mais reconnaît clairement que c'est des fleurs.
On reconnaît que c'est un végétal, que c'est des fleurs, donc c'est une création de la nature. Au moment où on coupe la lumière, toutes ces fleurs disparaissent, elles sont remplacées par la vue. C'est Dubaï en fait que j'ai utilisé.
C'est Dubaï.
Donc c'est des buildings, c'est beaucoup de buildings. Et,
du béton et du verre.
Et ça, c'est la création de l'homme. Donc avec un tableau comme celui-ci, moi j'essaye de faire, si vous voulez dire, un coup de gueule. Bon, je ne le dis pas trop fort, mais un coup de gueule par rapport à ce qu'on est en train de faire sur notre planète. Donc pas mal de la création naturelle est en train de disparaître sous notre bétonnage. Après, je veux me mettre persona dos en parlant de ça, mais c'est plutôt une prise de conscience qu'il faut avoir.
Oui, parce que d'un côté, c'est vrai qu'on vit dans une société urbanisée, d'ailleurs on vit tous dans des maisons, c'est urbain, c'est normal, et c'est vrai que des fois on pousse un peu la chansonnette, et puis on peut comprendre qu'un artiste veuille questionner à ce niveau-là, et là vraiment, parce qu'on est vraiment face à un tableau que, surtout c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est le tableau qu'on pourrait avoir chez sa grand-maman, avec un joli vase, des jolies fleurs, quelque chose de très innocent, oui. Et droit derrière, on éteint la lumière, paf, et là on a la claque.
C'est exactement ça, oui. En première lecture, c'est vrai que c'est un tableau relativement classique, assez figuratif quand même, puisqu'on voit des fleurs. C'est très sobre, mais on y voit des fleurs. Et au moment où vous coupez la lumière, ces images qui apparaissent, il faut savoir, de manière phosphorescente, donc c'est luminescent, ça nous saute à la figure. Et puis de voir tous ces buildings qui remplacent cette plante, c'est impressionnant, ça choque. Et c'est là, en fait, où j'essaye de créer une émotion et d'attirer l'attention du visiteur avec ce genre de construction, ce genre d'image.
Et est-ce qu'une image, pour vous, elle est censée forcément surprendre ou pas forcément ?
Non, c'est pas obligatoirement une surprise. Ça peut être un petit bout d'histoire. Bien souvent, mes tableaux représentent un fragment de l'histoire d'une personnalité. Ou je mets souvent en vue les personnalités qui sont en rapport avec un produit, avec un événement, avec un label, histoire de qu'on puisse mettre un visage sur quelque chose. Qui peut mettre un visage, par exemple, sur un signe qu'on connaît tous, un symbole qu'on connaît tous, le peace and love.
Alors, personnellement, je ne saurais pas comme ça. Je vous avoue, on va le dire que j'ai un petit peu triché, je suis allé demander, et pas n'importe qui, je demandais à ChatGPT, parce que Google ne savait pas me dire. Et puis, qui est cette personne du peace and love ?
Alors, le symbole peace and love, il a été créé en 1958 par Gerald Holtom. Il a été créé, en fait, pour un groupe qui allait organiser une manifestation contre l'arme nucléaire.
La Campaign for Nuclear Disarmament au Royaume-Uni.
Exactement. Et c'était en fait une commande que ce groupement a fait à cet artiste. Et Gerald Holtom a dessiné ce symbole en utilisant un langage que l'armée utilise, que les militaires utilisent. Ce langage s'appelle le langage sémaphore. C'est un langage des signes, en fait, avec les bras. Vous voyez les gens sur les aérodromes militaires, par exemple, avec les petits drapeaux dans les mains qui font des signes. Eh bien, le chevron qui est au centre de ce symbole représente la lettre N. La ligne droite qui traverse de haut en bas ce symbole représente la lettre D pour dire désarmement nucléaire sur Terre.
Et puis le cercle qui représente la planète Terre.
C'est exactement ça.
Mais c'est complètement fou que, en plus, c'est un signe que tout le monde porte. On l'a assimilé aux hippies, après Peace and Love and Unity. Il a été quelque peu dérobé à son sens premier. Mais bon, ça reste quand même assez, assez proche, hein, finalement. Et c'est de 1958, on était déjà là à ce moment-là.
Oui, et puis alors, ce qui est très intéressant, je parle maintenant de ce Peace and Love parce que j'en ai fait un tableau sur lequel on voit le symbole Peace and Love, mais dans le symbole Peace and Love, lorsqu'on éteint la lumière, on voit apparaître le visage de Gerald Holtom, celui qui l'a dessiné. Et maintenant, si je souligne ce symbole et si je remets en avant ce symbole, c'est parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on peut remettre ce symbole à sa signification initiale, c'est-à-dire le désarmement nucléaire. On a tous un peu peur quand même des menaces qui règnent actuellement sur la planète, pas loin de chez nous.
On est potentiellement vachement moins tranquille qu'il y a 20 ans en arrière à ce niveau-là.
Absolument.
Et puis vous, dans votre longue carrière, vous avez aussi peint d'autres choses. Vous me racontez que vous avez peint des casques de moto pour des écuries, pour des champions. Et c'est tout ça qui vous a amené à développer les techniques que vous utilisez. Parce que vous me disiez que la technique, elle était un petit peu secrète quand même, hein.
Alors oui, je vais pas divulguer comment est-ce que je fais ces tableaux, bien sûr. D'ailleurs, sur la porte de mon atelier, il y a un petit panneau qui dit, je cite, « Aux questions, comment faites-vous cela ? Peut-on visiter l'atelier ? Quelle technique utilisez-vous ? » Trois petits points. Il n'y aura pas de réponse. Donc, ceux qui viennent pour savoir comment je fais, ils repartiront en bredouille, on peut dire. Mais bon, c'est aussi pour garder un peu le mythe, le secret. Maintenant, c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps pour développer cette technique. Donc, je vais pas raconter à tout le monde comment ce que je fais. Et j'aime surprendre. Au fond, c'est pas comment je fais qui est important. C'est plutôt comment l'idée m'est venue de faire ça.
Et comment elle vous est venue ?
Alors, à l'époque où je peignais des motos encore, j'avais envie d'en faire une qui s'illumine, qui lorsqu'elle part dans la nuit, on peut voir les dessins sur cette moto qui sont luminescents. Mais ça n'a pas fonctionné. Par contre, j'ai gardé mes pigments luminescents pour en faire autre chose. Et à cette époque-là, j'étais un passionné de Dali. Dali était un artiste que j'adore toujours encore. À l'époque, j'en étais vraiment très très fan. Et c'est un artiste qui réussit à cacher des images dans ses tableaux. Ces tableaux, on peut les regarder pendant des heures. On découvre toujours des nouvelles images. visage. J'avais envie de faire quelque chose comme ça, mais d'une façon différente. C'est pour ça que j'ai utilisé le luminescent. Mes images à moi sont cachées dans les tableaux de manière luminescente, c'est-à-dire que dans un premier temps, on ne peut pas les voir, mais c'est quand même des images qui se rajoutent au tableau. Et Dali était vraiment un as pour faire ça avec des visions totalement de jour.
Et à part ça, une moto avec des éléments fluorescents, ça aurait été génial. Je pense qu'il y a pas mal de motards là maintenant qui sont en train de se dire « mais comment ça serait cool ?»
Oui, mais j'ai abandonné en plus cette activité, donc j'avais envie de changement, j'avais envie de quitter le monde de la moto, dans lequel je travaillais depuis plus de 10 ans, à peindre des motos, à faire des décorations, à travailler à l'aérographe, faire des illustrations à l'aérographe sur des réservoirs de motos. C'était passionnant, je dois dire, à cette époque-là, Photoshop n'existait même pas, donc c'était vraiment tout fait à la main.
On parlait à peine d'ordinateur, oui, effectivement.
Exactement, oui.
Ben écoutez, moi ce que ça m'hallucine, je reste avec ce côté-là. Surprise, est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller voir ce que vous exposez?
Ah oui.
Il y a un endroit où vous exposez?
Bien sûr, alors j'ai mon atelier à Burier. Burier, c'est sur la commune de La Tour de Paix, entre La Tour de Paix et Montreux. Et puis là, galerie de Burier, en fait, c'est ma galerie dans laquelle j'expose toujours 30 à 40 tableaux qui sont des créations personnelles pour la plupart. C'est pas des commandes, parce que j'en fais aussi de temps en temps sur commande avec des indications que des gens me donnent. Mais dans ma galerie, c'est principalement des tableaux que j'ai faits de ma création personnelle. Après, c'est là aussi que j'ai mon atelier. En général, dans l'atelier, il n'y a personne qui vient.
Il n'y a personne qui vient, le sait. C'est secret défense et c'est très bien comme ça. Parce que ça garde cette surprise. On peut également vous suivre sur Instagram si vous tapez Fred Piton, P-Y-T-H-O-N. Fred Piton, Alfred Piton de votre vrai nom. Merci infiniment déjà d'avoir ramené vos créations pour qu'on puisse les décrire et venu nous parler de ce que c'est une image selon votre opinion, qui est une opinion bien précise, mais ô combien enrichissante. Merci beaucoup et excellente soirée.
Merci.